Vous écoutez
RMC. RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
On est les meilleurs, on s'en fout.
Jean-Christophe Drouet.
Bonjour à tous. Eh oui, on est les meilleurs. Enfin, on essaye, évidemment. Les grandes gueules du sport, c'est votre émission en direct le samedi, le dimanche de 9h à midi. Très heureux d'être avec vous et visiblement avec Florence Foresti ce matin. Au sommaire aujourd'hui, première semaine de Ligue des Champions et déjà des joueurs qui menacent de faire grève face au calendrier ultra chargé. Trop de foot utile, le foot, c'est la une des GG dans quelques instants. C'est le transfert de l'été. J'ai un petit chat dans la gorge, mais il va vite partir, rassurez-vous. C'est le transfert de l'été, donc Adrien Rabiot, le Parisien, a signé à l'Olympique de Marseille. Un sportif peut-il vraiment faire ce qu'il veut de sa carrière? Je vais y arriver, décidément, un peu difficile hein, ce matin. La reprise du championnat... tu imites très bien le chat. La reprise du championnat de France de basket, le retour de la star du volley en France, Hervé Lengapet, nos sportco. Peuvent-ils survivre aux Jeux Olympiques? On ouvre le débat à 11h, sans oublier vos rubriques traditionnelles, la punchline des GG. On va revenir sur ce fameux 8-0 hier de Nice face à Saint-Etienne. Le zapping, on s'en fout pas. Le débat caché et nouveauté dans cette émission, ce sera la crise de la soixantaine de Christophe Cessieux. Il est remonté contre les Sud-Africains. Les grandes gueules du sport ce matin, je vous les présente. Une grande gueule qui, comme Adrien Rabiot, il prend l'oseille à Paris et après il se fait passer pour un sudiste. Christophe Cessieux, salut Christophe.
Je passe très peu de temps à Paris. Je ne viens que pour prendre des sous.
Voilà, c'est ça.
Et je me casse vite fait.
Vite fait.
Je n'habite même pas à Paris, sache-le.
Eh oui.
Non, c'est fou, hein. Toi non plus, tu habites dans la banlieue chic.
Oui, très cher. Très cher.
Moi, j'habite en province. Il habite en Normandie, figure-toi.
Parfait. Voilà. Et comment il va le Niçois ce matin?
Et alors, le Niçois va plutôt pas mal. Le Niçois, bah oui, méfie à frapper les Stéphanois. Alors, c'est qu'en plus, il y a eu une vieille rivalité entre Nice et Saint-Etienne. C'est ce club qui nous empêchait d'être champion dans les années 70.
Oh oui, d'accord.
Bah, je continue à aimer Saint-Etienne, mais là, quand même, franchement, bravo les Niçois.
8-0, on en parlera à 10h30, hein, de savoir si on peut se remettre d'une telle humiliation. Une grande gueule qui, contrairement à Adrien Rabiot, n'a jamais eu le courage de passer chez l'ennemi. Fred Veil. Salut Fred.
Salut, salut. Non, c'est pas une question de courage, c'est une question d'honneur.
Oh là, une question d'honneur. Il tease le débat de 10h. Est-ce qu'un joueur peut vraiment faire ce qu'il veut de sa carrière? On en parlera donc à 10h. Bravo mon cher Fred, ça va?
Ça va très bien.
Okay. Il a surtout la trouille de finir les pieds devant.
C'est aussi du courage, évidemment. Une grande gueule qui, comme Adrien Rabiot, elle est plus Ricard que Qatar. Marie Martineau, salut Marie.
Plus Ricard que Qatar?
Oui.
Ah, moi, je suis ni l'un ni l'autre.
Ah bon?
Ouais, je suis plutôt sobriété et champagne. Mais bon.
Ah, sobriété et champagne.
Ah, sobriété énergétique, par exemple. C'était pas au Qatar. Ouais. Mais on évolue plus dans les mêmes cercles, les gars. Il s'est passé des choses, là.
Si t'évolues, faut nous prévenir. Parce que nous, on essaie de se mettre à ton niveau, tu vois. Bravo, ma chère Marie. Très heureux de te retrouver.
Avec plaisir.
Pour cette 13e saison des grandes gueules du sport. Et puis, une grande gueule qui, comme Adrien Rabiot, il a joué dans Les Traîtres. David Douillet. Salut, David.
Ouais, j'ai gagné.
Et t'as gagné dans Les Traîtres. Bravo, comme lui. Ça va, mon David, ce matin?
Les Traîtres parmi les Traîtres. Vous êtes tous des Traîtres, les copains. Mais c'est comme ça.
Bon, on en parlera au-delà du foot, évidemment, du Carabio, vous l'avez bien compris. Ce sera à partir de 10h. On va débuter cette émission avec cette citation de Gilles Denoyer qui a dit un jour: entre trop et trop peu est la juste mesure.
RMC, la une des grandes gueules du sport.
Le coup d'envoi au Parc des Princes, PSG Brest, Jeannot Valentin sur RMC.
Dimanche, Nantes au programme à la Beaujoire, c'est parti. C'est parti à la Méno, Strasbourg Angers avec Sébastien Ruffet. Et au Stadium Toulouse Le Havre avec Romain Amalric.
J'en peux plus.
Avant de d'évoquer, poursuivre la Ligue des Champions ensemble, il y a un match de Ligue 2 ce soir au Stade des Alpes et sous les yeux d'Edouard G. Bonsoir mon cher Edouard.
Mardi.
Le coup d'envoi est imminent. À Lisbonne, Jeannot Rességuier et Jean Baumel.
Laissez-moi tranquille.
Comment?
Laissez-moi.
Mercredi.
Ça vient de partir au Parc des Princes, Aurélien Tiersin, Arthur Perrault.
Jeudi. C'est parti, à l'instant, le coup d'envoi qui est donné par les Brestois. Les premières minutes en Coupe d'Europe des hommes d'Éric Roy dans l'histoire de ce club.
Encore. Ça fait beaucoup là, non?
Eh oui, cette semaine, le facteur est passé. Hein. Plus de matchs, plus de chocs, plus d'enjeux. C'est de cette façon que l'UEFA vend sa nouvelle formule de la Ligue des Champions qui a débuté cette semaine. Alors pour le moment, un seul argument est vérifiable. Plus de matchs entre les Coupes d'Europe, les championnats domestiques, les rencontres internationales. L'overdose n'est jamais loin. Les joueurs eux-mêmes se rebiffent à l'image de Rodri cette semaine, le milieu de terrain de Manchester City, qui n'écarte pas, tout simplement, la grève.
I think we're close to that.
Je pense qu'on en est proche. Si cela continue comme ça, à un moment, on n'aura pas d'autre choix. Entre 40 et 50 matchs, un joueur peut évoluer au plus haut niveau. Ensuite, vous diminuez, car ce n'est pas possible de maintenir son niveau physique. Nous devons prendre soin de nous. Nous sommes les personnages principaux de ce sport ou de ce business. Peu importe comment vous l'appelez.
Plus de matchs, trop de matchs, peut-être aussi au détriment du spectacle. La musique qui fout les jetons. Et cette question. Trop de foot, tue-t-il le foot? Oui. Ou non, Christophe Cessieux?
Oui.
Fred Weiss?
Non.
Marie Martineau?
Bon, la preuve est faite que oui.
David Douillet?
Ben oui, bien sûr.
Avant de débattre, on va retrouver notre journaliste RMC Sport, Arthur Perrault. Salut Arthur.
Salut les GG, salut à tous.
Lui, plus il y a de foot, mieux il se porte.
Ben, bien sûr, parce qu'il est toujours là avec nous. Alors Arthur, quel écho cette menace de grève a eu sur la Ligue 1 cette semaine?
Oui, avant même la prise de parole de Rodri, le capitaine parisien Marquinhos tire la sonnette d'alarme sur le calendrier surchargé mardi en conférence de presse.
Je pense qu'à un moment donné, il va falloir s'asseoir avec les joueurs, avec les dirigeants, avec les gens qui décident par rapport au calendrier des matchs et tout. C'est bien, c'est beau d'avoir plus de matchs, mais c'est déjà une saison qui est très chargée avec la sélection, les voyages, les matchs à chaque 3 jours.
Pour le PSG, cette saison, terminer les matchs aller-retour en Coupe d'Europe, place à 8 rencontres au lieu de 6 entre septembre et janvier. L'entraîneur de Nantes, Antoine Comboiré, ne se sent pas concerné.
Là, vous regardez ici, dans le championnat de France, sur les 18 clubs, il y a peut-être 4 clubs, 5 clubs qui sont concernés. Nous, vous imaginez, on a démarré là, on a fait 3 matchs, une trêve. Là, on va faire 4 matchs, une trêve. Après, mais nous, on demande qu'à jouer, nous. Hein. Nous, on aimerait qu'il y ait plus de matchs, nous. Hein.
Alors que la fronde s'organise à Lyon, l'entraîneur Pierre Sage préfère chercher une solution contre les cadences infernales pour ses joueurs cadres.
Nous, on a 50% de notre effectif qui est en sélection nationale et 50% qui ne l'est pas. Plutôt que de se plaindre des cadences, je pense qu'il faut aussi réfléchir à la composition des effectifs, ce qui va demander au club aussi de peut-être répartir leur masse salariale un peu différemment.
Mais la FIFA tient à rajouter une compétition cet été, la Coupe du Monde des clubs. Pour le coach parisien Luis Enrique, le nombre réduit d'équipes en Ligue 1 change la donne.
Nous avons la chance que notre championnat compte 2 équipes en moins, donc cela fait 4 matchs en moins. Il faut s'adapter à ce calendrier qui va s'élargir.
La FIFA Pro Europe, syndicat de joueurs, a déposé une plainte contre la FIFA cette semaine. L'instance du football mondial se dit ouverte à la discussion avec l'ensemble des clubs français.
Merci beaucoup Arthur Perrault, ça a beaucoup fait parler en Ligue 1 cette semaine. Forcément, on vous propose ce débat aujourd'hui dans les grandes gueules du sport. Trop de foot, tue-t-il le foot? Le 32-16, le hashtag RMC Live, l'application RMC Direct Studio. Venez en parler avec nous au 32-16, évidemment. Votre sensation sur cette overdose ou non, évidemment. Christophe Cessieux, pourquoi oui?
Déjà, on pourrait aussi se poser la question. Trop de débats foot, tue-t-il les grandes gueules du sport? On peut aussi se poser la question parce que nous avons 3 ou 4 débats foot ce matin. Mais évidemment, il y a tellement de foot qu'on a du mal à s'en sortir. C'est-à-dire que dès qu'on voit un truc, on va faire un débat là-dessus. Il y a eu ce match. On va faire un débat là-dessus. Pour moi, c'est évident. J'ai longtemps été un passionné de foot. Et c'est vrai que depuis quelques années, je m'en suis désintéressé petit à petit. Je ne garde que 2-3 matchs dans la semaine. Un match en cours de semaine en Ligue des Champions quand il y en a. Un match de Nice le week-end. Bon, là, c'est bon, j'ai mon quota, je suis tranquille. J'ai plus besoin de regarder de foot du week-end. Aujourd'hui, on sait même plus ce qu'on regarde, quand ont lieu les matchs, les véritables enjeux. Ce qui donne pour moi l'intérêt à une discipline, c'est le fait qu'elle soit rare, qu'on doive patienter avant d'arriver au moment du match que l'on attend. C'est pour ça que moi j'adore les Jeux Olympiques, parce que ça n'arrive que tous les 4 ans. Donc du coup, t'attends de monter en puissance vers cet événement et t'attends d'en profiter vraiment. Tu le vis pendant 15 jours. Et ensuite, il faut attendre 4 ans. Alors que le foot, il faut attendre 2 heures. Et même pas. De temps en temps, il faut attendre 10 minutes pour avoir un nouveau match. Dans ce sport, il n'y a jamais de pause. Tous les jours de la semaine, quand même. Tous les jours, sauf le lundi. Le lundi, c'est ravioli, c'est sacré. Si vous êtes un mordu, vous pouvez vous adonner à votre drogue quotidienne. Le championnat s'étire sur 3 journées. La Ligue des Champions, désormais, là aussi, 3 journées, plus l'Europa League. Et sitôt l'épisode européen terminé, paf! Voilà que la Ligue 1 et la Ligue 2 reviennent. T'as pas le temps de te reposer. Le seul moment où on trouve un peu de répit, c'est pendant les pauses internationales. Là, t'as un petit match comme ça. Mais ils sont tellement mauvais, nos bleus, souvent, que on a le temps de s'endormir. Bref, moi, il y a trop de foot. Quand j'étais gamin, j'attendais le match. On parlait de Saint-Etienne, par exemple. Moi, Saint-Etienne en Coupe d'Europe le mercredi soir, c'était un soir sacré. Tout le monde ne parlait de ça depuis le lundi jusqu'au mercredi, et ensuite du mercredi jusqu'à la semaine d'après. On parlait de ce match parce que c'était le match. Désormais, le match, eh ben, il y en a toutes les trois minutes, il y en a trop.
Ok, c'est non pour toi. Tu peux répondre, Fred Weiss.
Bah, je peux répondre, mais déjà, je vais t'attaquer toi, j'y sais, parce que dans la question trop de foot, c'est-à-dire que toi aussi, t'as la connotation de pour toi qu'il y en a trop. Donc ça me dérange. Autant de matchs m'auraient plus arrangé par rapport à la question. Parce qu'effectivement, il y a beaucoup de matchs, mais toi, tu considères qu'il y en a trop, moi pas. Moi, je pense qu'il y en a pour tout le monde. Pour moi, il y a quatre types de supporters. Les hardcore, ceux qui vont regarder tous les matchs, quelle que soit l'heure, quelle que soit la minute, de la Ligue 1, de la Ligue 2, etc. Les classiques, qui soutiennent un club, et dans ce cas-là, quel est le problème? Eux, ils vont avoir deux matchs par semaine. C'est génial pour eux. Ils sont super contents, ils ont leur match. Ils ont la chance d'aller deux fois au stade dans la semaine parfois. Parfois, ils vont pas au stade, mais ils voient deux matchs de leur équipe, donc ils peuvent les soutenir. Les occasionnels, ceux qui vont effectivement, ceux-là, il y aura de la pub pour des gros matchs, pour des grosses occasions. Ils seront là, ils seront présents, et on les changera pas. Et les cessieux, qui ne vont rien regarder du tout, ceux-là. Les cessieux, c'est ceux qui vont regarder très ponctuellement des matchs, et qui seront pas intéressés. Je vois pas en quoi c'est grave d'avoir plus de matchs, parce que, la masse de ces gens qui regardent le foot, c'est des supporters d'équipes. Donc ils vont pas regarder tous les matchs, ils vont regarder les matchs de leurs équipes. Donc en quoi c'est gênant? Au contraire, mais eux ils sont ravis de se déplacer,
Fred,
un petit peu plus, de voir plus de matchs,
grave,
et d'être heureux.
Ok, la réponse de
Fred,
David.
Et après, tu sais qu'il ne croit pas une seconde à ce qu'il est en train de dire quand même. Je le connais, le Fred, il n'y croit pas une seule seconde.
David.
C'est super grave. Fred, t'as oublié que t'as été joueur, sans déconner.
Et ouais, les je jouais trois fois par semaine et j'étais ravi parce que je préférais jouer que m'entraîner.
Ben, tant mieux pour toi. Ben, mais en tout cas, quand tu vois ce que nous ont rendu comme copie les joueurs de l'équipe de France ces derniers temps, moi je me dis que voilà, c'est peut-être la conséquence de ce qu'on évoque ce matin.
Ou de la gestion
c'est
des effectifs.
C'est ça qui m'interpelle.
Non.
C'est-à-dire que tu vois, quand t'as trop de matchs, trop de championnats, ça superpose, tu sais plus où t'en es, etc., etc. Mais les joueurs, ils en sont où? Les joueurs récupèrent quand? Ils récupèrent comment? Comment ça se passe? Tu vois, un coup je suis avec mon club, un coup je suis en équipe nationale. Il y a les matchs de qualification pour tel et tel truc. Il y a les matchs de préparation, les matchs amicaux, etc., etc. Mais en fait, derrière tout ça, il y a énormément d'argent, et tu sais très bien. Et pourquoi il y a de plus en plus de matchs de compétition, etc.? Parce que ce sont des flux financiers significatifs. Et qui
et
en
que le joueur en profite aussi, de ces flux.
Mais bien sûr qu'ils en profitent.
Ils en profitent,
oui,
mais on atteint la limite.
L'élastique, il est tendu. Et tu vois, il y a de plus en plus de joueurs qui se blessent. Et la qualité de jeu, pour moi, elle est dégradée. Voilà.
Ok, la qualité de jeu est dégradée. C'est vrai que par rapport, pendant l'Euro, on s'est posé la question de se dire si les joueurs n'étaient pas totalement bouillis. Et on reviendra dans un second temps sur cette menace de grève. Mais Marie Martineau, ta sensation?
Ma sensation. Alors, trop de foot, tue-t-il le foot? C'est l'expression, hein, trop de foot, tue le foot, Fred. C'est pour ça qu'il a employé ça.
Oui, j'entends
merci
bien.
D'être à ma défense, Marie.
J'entends.
Au moins, je peux compter sur toi dans cette émission.
Sauf que ça fait question orientée,
c'est bon,
Marie.
C'est bon, Fred.
Sauf que, dans un premier temps, si tu es un supporter de foot, quel qu'il soit, il te faut ta zone, Bein, Canal+, éventuellement TF1 et M6, bon ça c'est des chaînes gratuites, mais pour l'équipe de France. C'est-à-dire que déjà, trop de foot, tu le foot, oui, parce que si t'as pas 90 ou 100 balles à mettre par mois, je sais pas si vous en avez déjà parlé récemment dans l'émission, mais en attendant, t'es quand même vraiment coincé. Donc là, déjà, tu tires une balle dans le pied, clairement, si t'es les instances du foot. Et pour en arriver aux conditions de travail de ces athlètes, moi j'ai toujours été dans la team athlète, ça me gêne particulièrement. Quand les athlètes commencent à se trouver tous d'accord de dire ça va pas, il y a un problème, t'es bien obligé de les écouter, parce que vous parlez de business et de business plan et de business model, mais en attendant, c'est eux qui le font tourner, ce business model. Et donc, c'est une évidence qu'il va falloir se mettre autour de la table et discuter. C'est des gars qui ont une seule carrière, même si vous dites qu'ils gagnent beaucoup d'argent, tout ça. Bon, mettons ce truc-là de côté. Ils ont une longévité, une carrière à gérer, des blessures. Enfin, on le sait tous, le repos fait partie intégrante de la performance. C'est juste une des bases, un socle clair. Et donc, à un moment donné, si eux-mêmes te disent, en fait, c'est plus possible, ben, j'ai envie de les écouter. Moi, j'ai envie de les croire, j'ai envie de qu'on se penche sur ce sujet-là et qu'on trouve des solutions. Ça peut pas être une fuite en avant permanente de plus de championnats, plus de matchs. Donc, je vais vraiment dans le sens de Christophe pour des raisons encore complémentaires qui commencent à faire beaucoup dans la balance.
Et ben justement, on en parle dans quelques instants. Est-ce qu'il y a des solutions à trouver? Est-ce que cette menace de grève, elle est crédible selon vous? Michel Platini en a parlé sur RMC cette semaine. Vous allez nous écouter et vous allez me parler de cette grève. Est-ce qu'un sportif, est-ce qu'un joueur de foot, par exemple, peut faire grève? Est-ce que vous, ça vous va très bien ou ça vous choque un petit peu? À tout de suite sur RMC, on vous attend au 32-16.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
9h32 de retour dans les grandes gueules du sport avec ce matin David Douillet, Marie Martineau, Fred Weiss, Christophe Cessieux dans 10 minutes. On s'en fout pas des informations à vous donner. Comme tous les samedis et dimanches, à vous de me dire si ça vous intéresse ou non. Les Red Bull qui balancent sur McLaren. Ah, ça, je sens que ça va vous plaire. Ou pas, on en parle dans une dizaine de minutes. Oui. Mais restons un instant sur notre débat. Trop de foot est-il en train de tuer le foot? Sachez évidemment que certains joueurs, j'en parlais il y a quelques instants, ont menacé de faire grève. Michel Platini était l'invité exceptionnel jeudi de l'émission Rotten sans flamme avec Jérôme Rotten et Jean-Louis Tour. Et écoutez ce que disait Michel Platini, le sage, sur cette menace de grève.
Les joueurs ne sont pas concernés. Et ça serait bien que les joueurs soient concernés et de prendre des décisions et de parler avec eux. La Fédération française veut plus de matchs de l'équipe nationale parce que ça fait plus de recettes. Mmh. La FIFA veut plus de matchs pour faire plus de recettes. Mmh. Et tous les clubs veulent faire plus de matchs pour faire plus de recettes. Donc voilà. Et à un moment, les joueurs, ils en auront le bol. Mais je comprends. Mais comme ils ne peuvent pas intervenir sauf faire la grève, parce qu'on leur demande jamais leur avis, ça serait important qu'un jour, les joueurs se réveillent et puis fassent la grève.
Ça serait important qu'un jour, les joueurs se réveille et fasse la grève. Est-ce que pour vous c'est crédible qu'un joueur de foot, qu'un sportif fasse la grève?
Mais oui, alors on a dans l'idée la grève, les mouvements grève, les mouvements sociaux qui partent du bas, qui partent des gens qui sont dans des conditions déplorables de travail. Et évidemment, je comprends que ça puisse choquer d'imaginer des gens qui gagnent très bien leur vie se mettre en grève. Mais en fait, c'est super bien. Je ne savais pas que Platini avait dit ça. En fait, la grève, c'est juste te mettre en opposition avec les décisions prises quand tu n'es pas concerté. C'est juste ça. Oublions l'aspect social et financier. Et en fait, moi, je prône ça à la commission des athlètes au CNOSF. Et c'est en train d'être pris en considération par toutes les fédés. C'est des commissions d'athlètes et des sièges dans les hautes instances, dans les comités directeurs, pour pouvoir justement faire partie de ces décisions-là. Et en tout cas, peser ou faire du lobby et dire, ça va être compliqué. Non, ça, c'est pas possible. Alors, je sais ce que vous allez dire, les garçons, et je vais vous laisser dérouler là-dessus. Mais voilà, de manière simple et efficace, si tu ne fais pas partie des décisions, je comprends qu'à un moment donné, tu te rebelles contre celle-ci. Parce que c'est quand même toi qui es au centre du projet.
Si c'est ton seul recours, eh bien, il faut faire grève. C'est ce que tu nous dis, Christophe Cessieux.
Marie, c'est bien beau, mais quand tu parles de l'aspect financier qui ne doit pas être pris en compte, évidemment que l'aspect financier est pris en compte quand tu es footballeur, que tu gagnes des fortunes. Ça semble tellement illogique aux yeux et aux oreilles des gens qui gagnent 2 francs 6 sous et qui ont du mal à combler et à faire les fins de mois, que des mecs qui gagnent des millions tous les mois disent « Ah, on veut faire la grève !»
Mais peut-être qu'ils sont OK d'en gagner moins, tu vois.
Ah, alors oui,
si leur demander « OK,
mais d'accord, vous faites 10 matchs de moins ou 15 matchs de moins par an, eh bien c'est telle somme en moins. Est-ce que vous allez être d'accord ?» Et tu fais un référendum et tu vois avec eux. Mais c'est évidemment, il y a de telles disparités aussi de salaire entre les uns et les autres.
C'est trop compliqué ça, c'est beaucoup trop compliqué parce que là, comme Boiré l'a dit, ça concerne combien d'équipes réellement dans le championnat par exemple, donc combien de joueurs concrètement. Donc
c'est-à-dire qui disputent trop de matchs.
Qui disputent trop de matchs.
C'est les internationaux, ceux qui font les matchs de Ligue des Champions.
Dans la Ligue des Champions, dans les Coupes d'Europe, etc.
Donc, oui, donc les meilleurs.
Comment tu veux former un syndicat, et je suis d'accord avec toi sur ce coup-là, Marie, c'est rare. Je pense que c'est important d'avoir un syndicat fort. Le basket a un syndicat fort et c'est hyper intéressant par rapport à ça. Sauf que comment tu veux, avec un effectif réduit, avoir un syndicat fort? C'est-à-dire qu'en gros, ça concerne très peu de joueurs. D'autres ont envie de jouer plus, d'autres ont envie de gagner plus, d'autres ont envie de s'exposer.
Non, mais là, c'est une porte d'entrée, c'est une clé pour mettre des athlètes, des footballeurs dans les instances.
Je suis complètement d'accord.
Mais il y a mille autres sujets, Fred, tu le sais. Il y aurait la porte ouverte à tous les sujets.
C'est le principe du syndicat. Il faut un syndicat fort dans le foot et il faut être bien représenté.
Ouais, et de la démocratie participative.
Disent, je joue trop, ça je peux l'entendre. Autant sur les supporters, on n'est pas d'accord parce que pour moi, les supporters sont toujours ravis. Mais qu'un athlète joue trop, il peut le déterminer, il peut le dire, mais il faut que tout le monde soit d'accord.
Et tu sais que ça peut créer l'inverse. Si tu as des athlètes qui siègent et qui vont entendre aussi le discours des dirigeants, qui vont expliquer aussi le plan financier, comment ça fonctionne et tout, peut-être que ça peut créer aussi l'inverse et qui vont redescendre dans les clubs en disant « Bah ouais, mais les gars, en fait, notre système, il marche comme ci, comme ça, et finalement, on n'est peut-être pas vraiment crédible de vouloir aller contre, tu vois ?» Enfin, faut pas non...
Ça concerne pas tout le monde.
Non, je veux juste te dire que on oppose toujours les gens comme ça, alors que quand tu les mets autour d'une table et tu discutes, et ben souvent, en fait, on est capable de compromis, on est capable de trouver, de faire les pas les uns vers les autres et de trouver des solutions ensemble. Et donc, ce serait normal qu'ils fassent partie de la solution.
J'ai l'impression que tu nous parles de notre prochain gouvernement, là. Mais non, on parle des footballeurs, évidemment, dans cette émission ce matin. Et justement, sur l'aspect financier, je voudrais que l'on pose la question à David, parce que c'est important, cet aspect financier. Puis j'ai autre chose à vous dire derrière. Mais c'est Carlo Ancelotti qu'on a parlé hier en conférence de presse. L'objectif est de jouer moins de matchs pour éviter les blessures. Et je pense que les joueurs n'auraient aucun problème à baisser leur salaire s'ils jouent moins. Voilà ce que dit Carlo Ancelotti. On n'est pas obligé de le croire non plus. Sur cette idée de la grève, David.
Ouais, moi, ça me choquerait pas que les joueurs fassent grève parce qu'au bout du bout, il y a leur santé, il y a leur efficacité, je le disais tout à l'heure, et comme l'efficacité joue aussi sur le fait qu'ils prennent des places plus prépondérantes dans certains clubs, donc sur la suite de leur carrière, bah, tout ça est lié. C'est-à-dire que si le joueur ne fait rien, il est en train de scier la branche sur laquelle il est, parce que il va dégrader son jeu, parce que les mecs sont crevés, sont épuisés, et s'ils sont épuisés, ils vont être moins bons, et si t'es moins bon, t'es moins recruté, tu vas dans des clubs moins prestigieux, t'es moins payé, etc. Enfin, tu t'inscris dans une spirale négative. Donc voilà, ils ont besoin de revendiquer les choses. Moi, ce qui m'interpelle. Et j'ai pas de critique à faire, je nomme personne, mais je suis stupéfait de l'inaction de l'UNFP, qui est l'Union syndicale des joueurs professionnels. Bon, il y en a qu'un syndicat. Ça a tellement évolué, c'est un syndicat qui a été créé dans les années 60, et on a l'impression que ce syndicat mettre un petit peu les pieds dans le plat, il est tenu par une ligue, tenu peut-être par une fédé, et que peut-être qu'il manque un peu d'indépendance. Or, l'indépendance, c'est celle de la liberté des joueurs. Ce serait peut-être intéressant que les joueurs prennent un peu plus le lead, les joueurs qui jouent actuellement, mais qui n'ont pas trop de temps, pas suffisamment de temps, mais en tout cas influent un peu plus dans leur syndicat, soient un peu plus moteurs, ou alors en créent un autre.
Oui, mais David, voilà, est-ce qu'il y a une majorité de joueurs qui se plaignent? Est-ce qu'il y a une majorité de joueurs qui se plaignent?
C'est ça la question. Il y en a beaucoup de syndiqués.
Apparemment, oui. Apparemment, oui. C'est ce que je lis. C'est ce que j'entends. Ça gronde.
Oui, on entend gronder parce que effectivement, il y a des gens qui parlent, qui s'expriment, et parce que c'est des grands joueurs, on leur pose la question. Mais est-ce que réellement, dans les clubs, dans la plupart des clubs de Ligue 1, on va parler que de la Ligue 1, les joueurs se plaignent de jouer? Ben non.
On a entendu
ils espèrent quand même tous devenir les
oui, mais dans des grands clubs, encore une fois, mais je parle d'une catégorie qui joue une fois par semaine.
Non.
Donc comment tu veux faire? En fait, le problème d'un syndicat, c'est la majorité.
Bah, j'ai une proposition à te faire, elle vient pas de moi, elle vient de Vincent Kompany qui est le nouvel entraîneur du Bayern Munich. Jouer 75 ou 80 matchs, on arrive à un stade où ce n'est plus réaliste. La solution que j'ai toujours souhaitée, c'est de plafonner le nombre de matchs qu'un joueur peut disputer, mettre un plafond, imposer une période obligatoire de vacances pour les joueurs.
Très bien, c'est une bonne idée, ça.
C'est une très bonne idée.
C'est ce qui se passe en rugby. Tu as une période obligatoire de vacances. Tu as un nombre de semaines où tu dois couper. Et si tu le fais pas, ton club est sanctionné. C'est comme ça.
C'est pas mal.
Et pour répondre à Fred, il a une excellente idée aussi, Fred. C'est-à-dire d'avoir deux syndicats. Un syndicat global pour l'ensemble des joueurs et un syndicat pour les internationaux. Parce que c'est deux problématiques différentes. Voilà.
Et on parle surtout des grands clubs là. Il faut se rappeler quand même que la plupart de ces grands clubs, et là je parle partout en Europe, ont des effectifs pléthoriques.
Oui, j'allais dire ils ont du banc.
Ils ont du banc, ils ont la capacité de mettre les joueurs
qui jouent.
Oui, mais c'est bien là le problème. On arrive à imposer, ce qu'il propose ce monsieur là, c'est magnifique. Parce que effectivement, si on arrive à imposer que certains joueurs puissent se reposer de temps en temps, t'aurais le même nombre de matchs avec la même qualité, avec des joueurs qui sont du banc, qui sont sur le banc, mais qui ont le niveau pour être sur le terrain en fait.
En tout cas, il y a le patron du syndicat des joueurs. Sachez qu'il est en place depuis 1969. Philippe Piard, il a les pieds bien installés. Et celui qui est en train de le mettre dehors, est en train de lui imposer des trucs, il n'est pas né, je peux vous dire.
Okay.
Il est bien en place.
Ok, ça c'était pour le tir gratuit. Ahmed nous appelle au 32-16. Bonjour Ahmed.
Oui, bonjour Christophe, bonjour les GG.
Tu veux participer à notre débat, on t'écoute justement, soit sur cette idée de grève, soit est-ce que toi, en tant que spectateur du foot, tu commences à te lasser de voir trop de foot à la télé?
Alors, moi, il y a plusieurs points. Le premier, concernant la grève, moi, je pense qu'on est dans un monde où chacun a le droit de défendre ses intérêts, donc qu'il gagne de l'argent ou pas beaucoup d'argent, ça, c'est pas le sujet. ils ont le droit de défendre leurs intérêts. Donc ça, pour moi, c'est pas trop choquant. La deuxième chose que j'ai envie de dire, c'est que de mettre trop de foot, trop de matchs, trop de compétitions, en fait, ça dégraderait les compétitions de prestige, type Ligue des Champions, etc. En fait, on aurait énormément de compétitions qu'on s'y retrouverait plus. Moi, j'aimerais bien garder, vraiment synthétiser le football, c'est-à-dire avoir le championnat, la Ligue des Champions, la Coupe d'Europe, Coupe du Monde. Je pense que c'est très bien comme ça. Le fait que les compétitions ne reviennent pas trop souvent fait qu'on, comme disait, je sais plus lequel des GG disait que on attend ça avec impatience pour les JO. Ouais, Christophe. Donc on attendait ça comme les JO. Les joueurs ont le temps de se préparer également à ces compétitions. Et concernant le nombre de matchs aussi, si je me place côté joueur, quand on disait oui, il risque d'être fatigué, etc. Dans un effectif, dans un vestiaire, il y a plusieurs joueurs. Quand on regarde que, par exemple, on a 3 gardiens par club et qu'on voit un seul gardien jouer toutes les compétitions toute l'année, je pense que le fait de faire tourner aussi l'effectif ferait que on aurait moins cette pression sur les bons joueurs. Après, je sais qu'on veut tous aligner la meilleure équipe possible à chaque fois, mais bon, voilà, il faudrait trouver un compromis. Mais je pense que ouais, une discussion s'imposerait entre et les instances et des représentants de joueurs pour pouvoir trouver une solution.
Et Ahmed, tu as raison, parce qu'il y a le point de vue des joueurs et puis il y a le point de vue aussi du spectateur. Et moi, je vous ai aussi proposé ce débat aujourd'hui parce que j'ai eu la sensation, savez que j'adore le foot, mais j'ai eu la sensation en regardant le match du PSG face à Gérone mercredi. Alors, c'était évidemment pas un PSG-Barça ou un PSG-Real, mais c'était quand même le retour de la Ligue des Champions. J'ai quand même l'impression d'être une oie qu'on gave. C'est-à-dire que j'ai mangé ça comme un fast-food. C'est-à-dire que j'avais pas faim. Mais c'était bon quand même, alors je l'ai pris parce que c'était là. Et je me suis dit, même en regardant, je me suis dit, mais pourquoi tu regardes si en fait ça t'intéresse pas tant que ça là. Et il n'y avait plus la magie en fait de la Ligue des Champions. La Ligue des Champions, il y aura 8 matchs, ça va être long.
Comme la magie est en train de disparaître aussi dans les compétitions internationales de fin de saison, je veux dire que ce soit l'Euro ou la Coupe du Monde, avec le nombre de sélections qui sont rajoutées, avec une phase finale, avec 32 équipes, c'est pareil. Avant de t'intéresser, avant d'avoir les matchs clés qui te font vraiment vibrer, il faut attendre quasiment 2 semaines désormais dans les compétitions. Mais on en veut toujours plus parce que évidemment, faut vendre plus aux diffuseurs qui payent plus de manière à ce que les salaires des footballeurs grimpent encore un peu plus et aussi ceux des agents. Donc de toute façon, c'est le serpent qui se mord la queue et si ça continue comme ça, on aura 3 ou 4 matchs par semaine par club pour que tout le monde puisse continuer à gagner de l'argent quoi. Et donc je sais pas jusqu'où on va aller, mais sans doute dans le mur, bien le face, boum.
Bon, si vous voulez en reparler, 11h40, les GG et vous évidemment, on n'a plus le temps mon cher David, mais on pourra en reparler dans 2 heures. Hein. Ce sera votre moment les GG, c'est la première fois que je coupe la parole à un double champion olympique, pardonne-moi évidemment.
Bah, s'il est pas là,
David Douillet, vous avez entendu la petite sonnerie, je pense que Christophe Cessieux a reçu un message de Philippia il y a quelques instants. Allez, on se retrouve dans quelques instants, lis ton texto, quelques instants.
On me dit, pour la suite des grandes gueules du sport. L'UNFP est une mafia et se fout complètement des joueurs, tu as raison. Tac. Allez, c'est un copain à moi, mais oui, je ne vais pas donner son
nom. On ne donnera pas l'identité de la personne.
Je sais qu'il est content ce matin.
On s'en fout pas. Dans quelques instants, nous en parlons avec notamment les Red Bull qui balancent sur McLaren. A tout de suite.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
9h48 de retour dans les grandes gueules du sport avec ce matin Marie Martineau, David Douillet, Fred Weiss, Christophe Cessieux. À partir de 10h, le Carabio à Marseille, alors qui a été largement débattu, hein, donc on va pas revenir sur le côté footballistique, mais plutôt sur le regard de l'athlète. Un sportif peut-il vraiment faire ce qu'il veut de sa carrière? Lui le dit en conférence de presse, et vous n'êtes pas d'accord les GG sur cette question. On en parle à partir de 10h, mais tout de suite, on s'en fout pas.
RMC.
Le zapping des grandes gueules du sport.
Alors, plusieurs informations à vous donner, l'actualité de la semaine de ces dernières heures. À vous de me dire si ça vous intéresse ou non. Si tout le monde s'en fout, on zappe l'information. La première à vous donner, c'est les Red Bull qui balancent sur McLaren juste avant le Grand Prix de Singapour demain. On s'en fout pas. Christophe Cessieux.
Je m'en fous.
Tu t'en fous?
Ah ouais?
Ouais, je voulais en faire un débat et là, j'ai pas le temps de dire tout ce que je voulais, donc je m'en fous.
Oh, très bien, il fait ça, il fait ça mijauré. Oh là là. La crise de la soixantaine, c'est dans une heure, hein, mon Chris. Marie Martineau.
Non, moi, je m'en fous pas.
Ok, David Douillet.
Ouais, je m'en fous pas.
Fred Weiss. Alors, hasard ou coïncidence, le week-end dernier, McLaren a dépassé Red Bull au classement constructeur, un véritable coup de tonnerre dans le monde de la Formule 1. Et cette semaine, donc, les deux pilotes à la marque qui donnent des ailes se sont attaqués justement aux ailerons des McLaren. Même si la FIA, l'instance qui régit évidemment les règles de la Formule 1, a finalement demandé à l'écurie britannique de modifier son aileron arrière, critiqué par certains rivaux, le fait qu'elle ait eu droit de l'utiliser, ça pose question. Voici ce que dit Sergio Pérez notamment. Pour moi, il est clair que McLaren dépasse le cadre réglementaire que cette voiture est, et cette voiture est donc illégale. On voit clairement l'aileron arrière plié, mais la FIA a effectué des tests et il semble que leur monoplace soit légale. Je suis étonné. En plus, ils ont participé à plusieurs courses avec cet aileron. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la règle veut que le DRS, l'aileron qui se lève, ce qui permet évidemment une impulsion supplémentaire à la Formule 1, ne puisse pas s'ouvrir de plus de 15 mm. Or, depuis Monza, celui des McLaren s'ouvre bien plus, au point que certaines écuries avaient, à Bakou, la semaine dernière, dépêché des photographes pour avoir des preuves. Voilà le problème en ce moment du paddock. Vous en pensez quoi, Marie Martineau?
Mais c'est vrai qu'ils pourraient passer pour des rageux, mais en même temps, on est sur une compétition. La Formule 1, c'est quand même juste la pointe de la technologie, de la vitesse, et donc chaque élément a un impact tellement important que je comprends qu'ils se soient émus du fait que McLaren est un aileron qui leur permette de faire quasiment un effet DRS. Je veux dire, c'est, enfin, si pour être allé souvent sur des compétitions automobiles, c'est la règle, enfin c'est le jeu. Il y a des paddocks, il y a des parcs fermés, on parque les voitures, il y a des commissaires qui vérifient des trucs. C'est alors tout le monde cherche un petit peu à trouver des solutions à son niveau pour être plus rapide. Et le but, c'est, enfin c'est le chat et la souris, c'est toujours comme ça. Donc c'est une évidence que s'il y avait un élément qui permettait à McLaren d'être plus rapide, et alors d'autant plus là qui du coup ils ont pris la tête du classement constructeur, c'était une évidence que Red Bull allait pas se priver de leur dire que c'est pas possible et de les jeter en pâture.
David.
Il n'y a pas que ça, parce que c'est pas, il n'y a pas que le DRS qui fait qu'aujourd'hui les McLaren sont plus rapides. On sait parfaitement que les appuis, que les passages en courbe, etc., etc. Et là, le DRS n'a absolument rien à voir. L'équilibre de la voiture, il est supérieur, et la mise au point de la voiture globale, elle est supérieure chez McLaren en ce moment. Ça a été le cas chez les Red Bull, ça a été le cas chez Mercedes. Ça tourne tout ça parce que les gens évoluent, avancent. Il y a une guerre absolue pour obtenir les meilleurs ingénieurs, les meilleurs techniciens, etc., etc. Et puis, il y a surtout une guerre entre les tauliers, entre Horner, entre Brown, entre Wolff. Ils n'arrêtent pas de se tirer dans les genoux, de se mettre des tacles pas possibles. Et ils attaquent sur tous les plans. Alors là, c'est la voiture. Demain, ça va être le père de Verstappen. Après-demain, ça va être une nana qui aura été collaboratrice, etc. Enfin, c'est la déstabilisation à tous les niveaux, la F1.
Oui, d'accord, mais là,
c'est devenu un feuilleton... C'est quand tu vois Pérez qui monte au créneau, ça veut tout dire. Pourquoi Pérez monte au créneau? Parce que c'est le sous-fifre des Red Bull en ce moment. C'est pas Verstappen qui est monté au créneau, c'est pas Horner.
Oui, il monte au créneau parce qu'il est dégoûté.
Il s'est mis de côté pour...
Ils jouent leur vie tous les week-ends à 350
km/h. Non, mais ça n'a rien à voir.
Je comprends que
c'est pas un problème de sécurité.
Qu'il y ait une voiture qui soit performante grâce à un élément qui est.
Mais non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. C'est pas parce qu'ils jouent leur vie qu'ils gueulent. Ils gueulent parce qu'ils perdent, c'est tout.
Ils gueulent parce qu'ils portent réclamation. C'est une évidence.
Et derrière, t'as Horner, parce qu'ils trichent tous. Ils sont toujours à la limite. Ils sont sur la ligne jaune. Enfin, ils trichent pas. Mais tu sais, quand tu fais évoluer des voitures, t'es toujours sur la ligne jaune. Et c'est normal. Donc, effectivement, que certains dépassent ou pas la ligne jaune, mais ils sont toujours en train de râler. Ils le font tous. Donc c'est juste une déstabilisation de plus dans le feuilleton qui continuera de la F1 où c'est devenu ça devient fatigant même à la fin. C'est devenu un saut.
Bon,
les compétitions sont heureusement plus agréables à regarder.
En tout cas, sur les 5 derniers Grands Prix, 3 ont été remportés par McLaren, donc forcément ça grince des dents, et donc la FIA a demandé à changer cet aileron. Preuve qu'il y avait un débat autour de cet aileron.
Deuxième information. On verra ce que ça donne sans l'aileron.
Exactement. Dans le zapping des GG, à vous donner. C'est Thomas Vauclair, on a bien compris les copains. Thomas Vauclair qui dévoile sa sélection pour les championnats du monde de cyclisme. On s'en fout pas. Christophe Cessieux.
Non, je m'en fous pas.
Ok, Marie Martineau.
Moi non plus.
David Douillet.
Non, moi non plus.
Fred Weiss.
Je m'en fous.
Ah, très bien. Alors ça se passera le 29 septembre prochain, ces mondiaux à Zurich. Et donc hier, nous avons appris notre équipe de France, Thomas Vauclair, le sélectionneur, a dévoilé cette liste autour de Julien Alaphilippe, Romain Bardet et donc le récent vice-champion olympique Valentin Madouas. Les autres coureurs, notamment David Gaudu, Julien Bernard, Romain Grégoire, 8 coureurs au total pour tenter évidemment de gagner, de remporter ce célèbre maillot arc-en-ciel. Il faut dire tout de même que ce circuit à Zurich va être exigeant, 273 km, plus de 4000 mètres de dénivelé. Et voici ce que dit Thomas Vauclair: on ne se présente pas avec le coureur le plus fort du monde, il ne faut pas prendre les gens pour des imbéciles, mais on ne se présente plus avec le statut de favori comme on a pu avoir au moment d'Imola ou de Louvain. C'était en 2020 et 2021, lors des deux titres mondiaux de Julien Alaphilippe. Christophe Cessieux.
Bah oui, évidemment, on n'a plus le Julien des grandes années, donc on fait avec ce qu'on a, c'est-à-dire des garçons d'expérience, des baroudeurs et des garçons qui sont capables de réaliser des exploits. On pense évidemment à Julien qui a fait de très belles courses ces derniers temps, mais il lui manque toujours un petit quelque chose pour aller chercher la gagne. On pense aussi à un garçon comme Romain Bardet qui dispute ses dernières courses de sa carrière. Et puis on pense surtout à Thomas Vauclair, parce que c'est presque lui hein, le facteur le facteur plus, le facteur X de cette équipe de France. Depuis qu'il est sélectionneur, donc il est arrivé en 2019, il a amené les Bleus vers deux titres mondiaux remportés par Julien, deux titres européens dont un pour Christophe Laporte, une médaille de bronze européenne et deux médailles olympiques l'été dernier, même s'il n'y avait pas la médaille d'or. Excusez du peu quand même pour une nation qu'on dit aujourd'hui plus au niveau, et a raison, hein, plus au niveau de la Belgique, de l'Espagne et d'autres équipes, dont la Slovénie évidemment. Alors on n'aura pas de grandissimes favoris, mais on va avoir des garçons qui vont être capables de faire des coups, de partir. Je veux dire, qui croyait que les Français feraient 2 et 3 aux Jeux Olympiques? Franchement, qui y croyait? Hein, pas moi. Avec tous les mecs qui étaient engagés dans cette épreuve, il faut être intelligent, faut avoir un coup d'avance, faut sentir la course, et ça, on sait que Thomas Vauclair le sent parfaitement bien. Donc je me dis pourquoi pas. Évidemment, ça sera difficile de battre Tadej Pogacar.
Ce sera la semaine prochaine, on en reparlera évidemment dans cette émission. Il faut le dire, Pogacar, tu l'as rappelé, sera le grandissime favori de ces championnats du monde.
Et juste un petit détail, chez les filles, on aura une certaine Pauline Ferrand-Prévot qui va s'aligner, notre championne olympique de VTT qui a mis au clou son VTT et qui désormais repart sur la route, et là aussi avec l'espoir de devenir peut-être pas championne du monde sur ce coup-là, mais de remporter le Tour de France féminin la saison prochaine.
Adrien Rabiot à l'Olympique de Marseille, un sportif, peut-il vraiment faire ce qu'il veut de sa carrière? C'est notre prochain débat. C'est le bras de fer des GG dans quelques instants, et les GG ne sont pas d'accord. À tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi.
Les grandes gueules du sport.